Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en 2013, une commission luthéro-catholique a publié un rapport intitulé « Du conflit à la communion » pour préparer, je cite, « la commémoration luthéro-catholique commune de la Réforme en 2017 ». Parmi les membres de cette commission figurent plusieurs cardinaux, dont le cardinal Müller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, deuxième personnage de l'Église. Le premier paragraphe de ce texte est ainsi conçu. En 2017, les chrétiens luthériens et catholiques, déjà l'expression est bizarre, on devrait dire les catholiques et les luthériens, pas les chrétiens luthériens et catholiques, célébreront ensemble le 500e anniversaire des débuts de la Réforme. Aujourd'hui, les luthériens et les catholiques ont la joie de se comprendre mutuellement de mieux en mieux, de coopérer et de se respecter de plus en plus. Ils ont fini par reconnaître que ce qui les unit est plus important que ce qui les sépare. Avant tout, ils partagent la foi en Dieu Trine et en la révélation en Jésus-Christ. Et ils affirment les vérités fondamentales de la doctrine de la justification. Fin de citation. Ainsi, l'Église conciliaire a clairement montré son intention de s'associer à l'année Luther, qui a commencé le 31 octobre, il y a quelques jours, et qui s'achèvera un an plus tard pour le 500e anniversaire de l'affichage par Luther de 95 thèses sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg, ce qui marqua le début de sa révolte. Nous ne nous associerons pas, mes bien chers frères, à cette commémoration luthéro-catholique de la Réforme. De même que l'an dernier, nous ne nous sommes pas associés à l'année de la miséricorde par laquelle le pape François, a fêté les 50 ans du Concile Vatican II. Voyons, si vous le voulez bien, pourquoi nous ne pouvons pas fêter Luther. Ensuite, nous verrons ce que l'Église conciliaire fait pour tenter de le réhabiliter et nous terminerons en proposant de commémorer un autre centenaire. Pour comprendre pourquoi nous ne pouvons fêter Luther, il faut bien comprendre la gravité de sa révolte. Nous sommes créés pour connaître, aimer et servir Dieu sur cette terre et par ce moyen arriver à jouir au ciel de la vision béatifique et de la communion des saints. Ce plan de Dieu, qui est très simple, a été traversé par la révolte de Lucifer et d'une partie de ses anges, des anges. Non serviam, je ne servirai pas, telle est la devise du démon. Et il l'a malheureusement apprise à nos premiers parents qui ont gravement désobéi à Dieu. Le péché originel n'a pas changé le plan de Dieu. Nous sommes toujours créés pour connaître, aimer et servir Dieu sur cette terre et par ce moyen sauver notre âme. Mais cela est devenu difficile, pénible. Ce qui nous coûte surtout, c'est de servir Dieu, de lui obéir. Nous préférons souvent faire ce qui nous plaît, même quand cela déplaît à Dieu. Après le péché originel, c'était devenu si difficile de servir Dieu que le démon tenait en esclavage la plus grande partie de l'humanité. Il a fallu que notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vienne sur la terre pour nous délivrer au prix de son sang et fonder son Église, où nous trouvons tous les moyens qui nous permettent de connaître, d'aimer et de servir Dieu. Cependant, malgré tous ces moyens mis par notre Seigneur à notre disposition, le moine Martin Luther éprouvait de grandes difficultés. Il se sentait toujours pécheur, éloigné de Dieu. Était-ce une tentation, un scrupule, ou bien était-ce que le moine Luther ne faisait pas assez d'efforts pour se maintenir dans la grâce de Dieu? Toujours est-il que puisqu'il n'arrivait pas à se changer, il a décidé de changer la religion. C'est plus facile. Désormais, il n'est plus nécessaire de servir Dieu, de lui obéir. Cela est réputé impossible. Il suffit de faire confiance à Christ et tout va bien. Écoutons le dictionnaire de théologie catholique qui résume la pensée de Luther. Ce que je vais vous lire là, c'est la pensée de Luther, ce n'est pas la pensée catholique. Sur notre corruption, Dieu peut mettre un manteau, je veux dire les mérites de Jésus-Christ. Ce sera une justification toute extérieure, un revêtement de marbre sur le bois pourri d'une cabane. Dans le travail de notre salut, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul est actif. Nous n'avons pas à l'être nous-mêmes. Vouloir coopérer par nos œuvres à ce qu'il a fait, à ce qu'il a surabondamment accompli, ce serait lui faire injure. Et comment l'homme obtiendra-t-il de Dieu ce manteau? Je veux dire cette attribution extérieure des mérites de Jésus-Christ. Par la foi, ou plus exactement, par la confiance en Dieu et en Jésus-Christ. L'homme continuera de produire des fruits de mort, des péchés, mais par la confiance qui sera dans son cœur, il méritera que Dieu lui attribue les mérites de Jésus-Christ. Enfin, quand il sentira en lui cette confiance, il aura la certitude de son salut. Fin de citation du dictionnaire de théologie catholique. Le 1er août 1521, dans une lettre à Melanchthon, Luther résumera sa nouvelle religion sous cette formule « Pecca fortiter, sed fortius crede ». « Pêche fortement, mais crois plus fortement encore ». Désormais, continue le dictionnaire de théologie catholique, il en avait donc fini avec le joug de la loi et les tourments de la conscience. Voilà l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, qu'il venait annoncer au nom de Dieu. Depuis des siècles, cette vérité était restée cachée. La pauvre humanité avait été courbée par l'Église romaine sous le joug inutile et pesant de la pénitence, sous l'obligation de tendre à la perfection par des œuvres personnelles. Luther, au contraire, venait lui apprendre à se cacher sous l'aile de Jésus-Christ, à s'envoler par la confiance, par le sentiment, dans une douce rêverie jusqu'au pied du trône de Dieu. Fin de citation. On peut dire qu'après Lucifer et son non serviam, il n'y a pas eu de plus grand révolutionnaire que Luther. On se demande alors avec étonnement comment l'Église conciliaire peut chercher à le réhabiliter. La raison en est simple. La franc-maçonnerie a décidé de refaire l'unité du genre humain par le biais du mondialisme. Et elle a réussi à influencer des hommes d'Église. D'où le Concile Vatican II, où l'on a promu l'œcuménisme, c'est-à-dire le rapprochement de toutes les religions, sous prétexte de travailler ensemble à réunifier le monde. Vatican II a accueilli un bon nombre des requêtes de Luther, notamment sa description de l'Église comme peuple de Dieu, et non plus comme une société hiérarchique, l'accent mis sur le sacerdoce commun des fidèles, nous sommes tous prêtres, enfin la liberté religieuse. À la suite de Vatican II, l'Église conciliaire a continué à se rapprocher des protestants, par exemple en instituant la nouvelle messe, qui est un mélange de messe catholique et de scène protestante, à la confection de laquelle ont collaboré d'ailleurs 6 pasteurs protestants. Puis il y a eu les déclarations de la commission luthéro-catholique, comme celle de 2013 que nous avons lue tout à l'heure, et une autre fameuse déclaration de 1999 qui a prétendu aboutir à un consensus sur la justification entre deux doctrines pourtant radicalement opposées. Enfin, il y a eu les déclarations et les gestes des derniers papes tout à fait étranges. En 1980, c'est Jean-Paul II qui a dit à Francfort « Aujourd'hui, je viens à vous, vers l'héritage spirituel de Martin Luther. Je viens comme un pèlerin. » En 2011, dans l'ancien couvent augustinien de Luther à Erfurt, c'est Benoît XVI qui déclara « La pensée de Luther, sa spiritualité tout entière, était complètement christocentrique. » Enfin, le 26 juin dernier, c'est le pape François qui a dit « Aujourd'hui, les luthériens et les catholiques, avec tous les protestants, nous sommes d'accord sur la doctrine de la justification. Sur ce point si important, il ne s'était pas trompé. Il a préparé un remède pour l'Église. » On se demande vraiment comment le pape peut dire une sottise aussi énorme, quand on sait que la doctrine de Luther sur la justification a été condamnée infailliblement par le Concile de Trente. Le 13 octobre, le pape François a fait mettre à l'honneur au Vatican la statue de Luther. Vous avez les photos sous le portique. Enfin, le 31 octobre, le pape s'est invité en Suède, car c'est lui qui a pris l'initiative de ce voyage, pour aller fêter avec les protestants le début de l'année Luther. Et là, il a signé une déclaration commune avec le représentant du luthéranisme, dans laquelle il répète ce sophisme que nous avons entendu déjà au début, « Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. » Eh bien non, très saint Père, avec tout le respect que nous devons à votre auguste fonction, ce qui nous divise avec les protestants est bien plus grand que ce qui nous unit, car ce qui nous divise, c'est la foi. Les protestants n'ont pas la foi. Ils croient en Luther, mais ils ne croient pas en Dieu. Car Dieu a institué une Église, et par son Église, il nous révèle des vérités que les protestants refusent de croire. Au lieu de soumettre leur raison aux vérités de la foi, ils soumettent la parole de Dieu à leur propre raison. Nous avons en commun avec les protestants la nature humaine, et peut-être quelques vertus naturelles. Mais les protestants n'ont ni la foi, ni l'espérance surnaturelle, ni la charité théologale. Et cela fait une séparation immense. Au ciel, il n'y a que des catholiques, il n'y a pas de protestants. Et entre les deux, comme dit notre Seigneur dans l'Évangile, un grand abîme a été établi. De sorte que ceux qui voudraient passer d'un côté à l'autre ne le peuvent pas. Voilà la vérité de l'Évangile. Entre les catholiques et les protestants, il y a un grand abîme. Certes, en cette vie, il peut être franchi si le protestant revient à l'Église, mais après la mort, c'est trop tard. Alors, mes chers frères, plutôt que de faire l'année Luther, nous vous proposons un autre centenaire, celui de Fatima, où la Sainte Vierge est apparue 6 fois en 1917. La Sainte Vierge, c'est l'anti-Luther, si vous me permettez l'expression. Le moine a prétendu que l'on ne pouvait obéir à Dieu, que la loi de Dieu était au-dessus de nos forces et que nous restions pécheurs. La Sainte Vierge, elle a obéi à Dieu. Fiat, c'est sa devise, et elle est immaculée. Elle nous a dit d'obéir à Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. À Fatima, la Sainte Vierge a exhorté les âmes à se convertir, à changer de vie. J'avais beaucoup de choses à vous demander, dit Lucie à la Sainte Vierge, de guérir quelques malades, de convertir des pécheurs. Elle répondit, « Quelques-uns, oui, d'autres, non. Il faut qu'ils se corrigent, qu'ils demandent pardon de leurs péchés. et prenant un air plus triste, « qu'il n'offense plus Dieu notre Seigneur, qui est déjà trop offensé. » Et puis, Fatima, c'est la nécessité de prier la Sainte Vierge, car elle a recommandé le chapelet à chacune de ses apparitions. Fatima, c'est l'affirmation de la médiation de la Sainte Vierge, car Dieu veut répandre la dévotion à son cœur immaculé pour obtenir la paix dans le monde et la conversion de la Russie. Tout cela est à l'opposé de la doctrine de Luther, qui prétend qu'il ne faut pas prier la Sainte Vierge et qu'il n'y a qu'un seul médiateur, Christ. Sans doute, il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, mais la Sainte Vierge est médiatrice entre nous et son Fils. Elle est même médiatrice de toutes les grâces. Le fait que le pape ait choisi d'installer la statue de Luther au Vatican le 13 octobre, jour du grand miracle du soleil, est bien révélateur du mépris ou peut-être de la légèreté que le pape fait à propos de Fatima. Et en même temps, cela fait peur, car on ne se moque pas impunément de Dieu et de sa mère. On sait que Dieu a demandé la pratique des 5 premiers samedis du mois pour réparer les 5 principales offenses contre le cœur immaculé. Parmi ces offenses, il y a les blasphèmes de ceux qui refusent de la reconnaître comme mère des hommes et les blasphèmes de ceux qui cherchent publiquement à mettre dans le cœur des enfants l'indifférence ou le mépris ou même la haine à l'égard de cette mère immaculée. Or, telle n'est-elle pas l'attitude de Luther et des protestants? Heureusement, une des vengeances, si l'on peut parler ainsi, de la Sainte Vierge contre ceux qui l'offensent, c'est de les convertir. Ainsi, pendant la route mondiale, ce voyage triomphal de la statue de Fatima à travers le monde à partir de 1947, on vit des conversions de milliers de protestants, comme cela est raconté dans la plaquette de Philippe le Grand, « Merveille opérée par le cœur immaculé de Marie » que vous trouvez sous le portique. Tâchons donc de répondre à l'année Luther par une année Fatima, au cours de laquelle nous prierons mieux notre chapelet en méditant les mystères, nous pratiquerons la dévotion aux 5 premiers samedis du mois et surtout nous augmenterons notre dévotion au cœur immaculé de Marie en lui demandant notamment le retour des autorités conciliaires à la tradition et la conversion des protestants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.